Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio PFM 99.9 pour l'Actuality, l'émission de débat entre lycéens. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020, puisse-t-elle être source de bonheur et de sérénité pour vous. Et avant d'entrer définitivement dans cette nouvelle année, nous allons faire une petite rétrospective de l'année 2019, de l'investiture de Jair Bolsonaro au décès de Jacques Chirac en passant par le grand débat national. Nous allons revenir sur cette année riche en actualité. Comme l'année dernière, 365 jours en 30 minutes, c'est le défi que nous nous imposons aujourd'hui sur Radio PFM 99.9 avec l'Actuality Team.
Bonne année 2020!
Et aujourd'hui, pour débuter, cette nouvelle année, je ne suis pas seul, je suis entouré d'Héloïse.
Bonjour!
De Jeanne.
Salut!
De Thomas.
Bonsoir!
D'Eude.
Salut!
De Sarah Florentine.
Salut!
Et de Julie à la régie.
Salut!
Ainsi que moi-même Thibaut à l'animation de cette émission. Nous allons donc faire un tour de l'actualité 2019. Alors, pas de point d'information aujourd'hui, Arthur n'étant malheureusement pas présent. Mais, cher chroniqueur, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous retenez de cette année 2019, dans l'actualité en tout cas? Qu'est-ce que vous retenez?
Wow.
Moi, je pense quand même que le point le plus important, c'était les gilets jaunes, parce que ça...
En France, carrément.
Ouais, en France, ça a été quand même une bonne partie de notre année, et tous les samedis, c'était des manifestations, et puis ensuite les grèves et tout, ouais. Tout ça. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui a été très important pour cette année.
D'accord, donc sur le plan national, tu retiens surtout les gilets jaunes, Héloïse ?
Ouais, bah, il y a eu les gilets jaunes déjà, et puis on a un peu eu le même problème avec les grèves déjà en fin d'année tout récent, là.
Et sur la réforme des retraites.
Carrément, ça fait un peu le même genre d'effet, quoi. Instabilité en France, etc. Et ensuite, on va dire que sur la longueur de l'année 2019, je dirais pas mal d'instabilité au niveau mondial, dans l'ensemble des pays, que ce soit les manifestations, que ce soit les décisions politiques, etc.
D'accord, et tu puis, penses à quel événement en particulier pour les...
Tout ce qui a pu se passer en Chine, à Hong Kong,
okay.
Problème avec Trump, toujours, que ce soit avec les différentes frontières, etc.
L'Iran qui...
Ouais, très récent, là, les problèmes entre l'Iran et l'Irak.
Aujourd'hui.
C'est clair. Et puis, toujours les mêmes soucis aussi d'environnement. Il y a eu pas mal d'évolutions vis-à-vis de ça. La France a beaucoup bougé. On commence à vraiment prendre conscience du problème. Et le problème se fait surtout de plus en plus urgent.
Je pense qu'aussi à l'international, on peut noter les élections des personnes un peu plus radicales comme Jair Bolsonaro ou d'autres personnes qui n'aident pas forcément la stabilité politique du monde. Et je pense que ça va être un des défis de 2020 d'essayer de gérer tout ça. Quoi.
Ouais. D'accord, donc un monde carrément. De plus en plus instable pour vous, Héloïse et Jeanne. Mm-hmm. À ma gauche, Eudes, Thomas, qu'est-ce que vous retenez de cette année?
Bah moi, en plus de ce qui a été dit, je retiens sur le plan écologique, notamment les incendies, que ce soit au Canada, au Brésil, pardon, et en Australie. Donc les feux de forêt qui sont récents ou qui ont débuté il y a quelques mois déjà. Ensuite, sur le plan politique, un peu pareil, Bolsonaro. Après, il me semble que c'est en 2019, l'extrême droite en Autriche, il y a eu un scandale, du coup, l'extrême droite est tombée. Et pareil, l'escalade des tensions entre Iran et États-Unis.
Dont nous reviendrons la semaine prochaine dans un nouveau débat. Thomas, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2019?
Ça a été une année chargée, autant à l'international qu'en France. On a eu l'incendie de Notre-Dame, des incendies, comme disait Eudes, au Rio. Au Brésil,
oui.
Et en Australie aussi.
Ouais. Et en Australie aussi actuellement. Sarah Florentine.
Comme Thomas l'a dit, je repensais tout de suite à l'incendie de Notre-Dame et comme Héloïse le disait aussi, on a beaucoup avancé d'un point de vue écologique avec le mouvement Fridays for Future notamment. Et aussi, je trouve que ça a été une année aussi riche d'un point de vue sportif avec la Coupe du Monde féminine notamment.
Coupe du Monde féminine en France évidemment et gagnée par les États-Unis, pardon. Vous m'avez parlé justement de cette avancée écologique. Est-ce que pour vous, Greta Thunberg est la personnalité médiatique de cette année, la personnalité de l'année?
Pour moi, ouais, excuse-moi, je te coupe.
Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, hein? Vous pouvez me dire quelqu'un d'autre.
Bah, en fait, pour moi, ça a bougé sans bouger, parce qu'il y a eu prise de conscience, mais il n'y a pas encore eu les mesures nécessaires, on va dire, derrière. Mais c'est vrai qu'd'un point de vue médiatique, je pense que Greta, elle a eu beaucoup d'impact dans le sens où elle a réussi à faire, sans faire bouger les choses, mais d'un point de vue médiatique, vraiment, à se représenter avec d'autres jeunes, à porter plainte contre des pays, quand même, ce qui n'est pas rien. Et je pense, en tant que vis-à-vis de son âge et vis-à-vis de l'action qu'elle arrive à faire, je pense que ce titre lui revient particulièrement bien.
Moi, je ne sais pas si c'est la personnalité de l'année ou si elle mérite de l'être, mais je trouve que c'est un beau message qu'une jeune femme jeune et engagée pour l'écologie représente l'année 2019.
parce que je trouve que c'est quand même des valeurs qu'on doit défendre et qu'on doit essayer d'améliorer. Donc que ça soit une jeune femme pour l'écologie, je trouve que c'est bien.
D'accord. Carrément. Eudes, Thomas.
Bah, moi, je sais pas forcément dénoter d'autres personnalités. Enfin, il n'y a pas eu énormément d'autres personnalités, du coup, c'est un peu hégémonique.
On pourrait parler, si... je sais pas, de. Par exemple, une fois de plus de Trump et, sur le... ouais, et son Trump, action sur le plan positif, international.
Quoi. Ah oui, sans aucun doute, surtout que là, 2020, c'est l'année de la réélection, donc Trump a une importance capitale. Exactement. Aussi, niveau politique, je pense que c'est très important.
Sarah Florentine, qu'est-ce que tu as pensé de l'année de Greta Thunberg? Est-ce que c'est la personnalité de l'année, selon toi?
Oui, je pense qu'on peut dire ça parce que. Je sais pas si on peut dire qu'elle a fait bouger les choses, mais elle a réussi à faire entendre sa voix et à faire prendre conscience à beaucoup de jeunes l'importance du climat et les dangers que ça provoque. Et donc je pense que c'est un titre qui pourrait lui revenir, elle a beaucoup de mérite.
D'accord. Carrément.
Et aussi, moi, un sujet à quel je viens de penser, c'est tous les mouvements qu'il y a pu avoir en France, en tout cas à l'interne, sur les égalités hommes-femmes. Sur, je crois que j'ai l'impression que de cette année en particulier, il y a eu beaucoup de mouvements médiatiques, et de, que ce soit sur les réseaux ou même dans la rue, etc. Pas forcément de changements, mais de paroles en tout cas.
Prise de conscience.
De prise de conscience et de paroles prises par les homosexuels, par des femmes, etc. Dans les différents débats sociaux qu'il y a en France, en tout cas. Ouais. Avec la PMA aussi d'ailleurs, on n'a pas parlé ça encore. Mais,
oui aussi.
Toutes les lois qui ont changé aussi vis-à-vis de ça.
Je suis d'accord que socialement, 2019, ça a été pas mal, notamment pour l'expression des femmes et au niveau du viol ou des choses un peu dures comme ça. Mmh. Je pense que ça a vraiment permis de libérer la parole, et même avec le Grenelle et tout. Enfin,
Grenelle sur les
violences.
Les violences, ouais.
Je pense que ça a été pas mal pour que les gens puissent commencer à parler, à se rendre compte, et que finalement, après parler, on peut avoir des décisions et on peut faire des choses pour faire bouger ça.
Le débat est encore en cours d'ailleurs, je trouve.
Ouais.
Qu'il y a le débat est encore en cours. Est-ce qu'on a fait des progrès selon vous durant cette année 2019 sur tous ces sujets sociaux qui concernent la majorité des femmes, l'égalité hommes-femmes, les violences conjugales? Est-ce qu'on a fait des progrès selon vous durant cette année 2019?
Déjà, on a permis aux femmes de plus s'exprimer, et on leur a permis d'avoir une voix, et finalement, c'est pas quelque chose on dit bah tant pis pour elles, ou on va juger ça, mais bon, vite fait, personne sera au courant. Je pense que du coup, ça a permis de donner confiance aux femmes et puis de les inciter aussi à dire ce qui s'est passé, donc ouais, c'est pas mal.
Ouais, je pense aussi qu'il y a eu une véritable prise de conscience et, comme tu dis, une parole de libérer. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de différents points de vue qui se mélangent, et qu'il y a vraiment, j'ai l'impression, dans la population française, plein d'avis qui sont différents, et que du coup, beaucoup d'éthiques se mélangent, et qu'il y a encore beaucoup d'avis vraiment divergents, quoi, que ce soit sur les homosexuels, que ce soit sur les violences faites aux femmes ou les différents problèmes sociaux. J'ai l'impression que le débat, il va être encore long, en tout cas, avant
que
ça
bouge. Mais
après,
enfin, Rome, c'est pas fait en un jour, donc je pense que pour que les mentalités changent, il va falloir un peu de...
C'est important qu'on prenne le temps,
c'est sûr. Il va falloir du temps, quoi.
Mais c'est que le début, quoi, pour le coup. Si on veut vraiment que, pour moi, quand je parle de progrès, qu'il y ait des mesures qui soient prises, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore au terme de progrès, quoi, mais c'est en train de bouger.
D'accord, donc 2019, l'année de l'éveil, du début. 2020, l'année de la confirmation. Pour toi, Sarah Florentine?
Oui, pourquoi pas. Je pense que on en a plus parlé en 2019, et j'ai l'impression qu'on en a plus parlé en cette fin 2019, et oui. C'est un bon moyen pour que ça commence bien en 2020.
D'accord. Les garçons, Eudes, Thomas.
Je retiens aussi, pour changer de sujet, sur l'échelle politique, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est la popularisation des causes comme celle des Ouïghours en Chine, par exemple, qui sont retenues dans les camps de rééducation.
Les camps de concentration aussi.
Donc c'est assez intéressant de voir que cette minorité finalement a pu se mettre en avant sur la scène internationale, même si ça reste très compliqué dans un pays comme la Chine. Et aussi, de l'autre côté, finalement, sur le continent américain, l'impeachment de Trump, qui est le troisième président à avoir subi cette procédure, qui est historique.
Après, je sais pas si l'impeachment aura vraiment un impact. Enfin, c'est un impact maintenant pour lui, mais vu qu'il sera jamais destitué,
c'est plus moral finalement.
Ouais. Parce que vraiment,
c'est symbolique en fait.
Ouais,
parce qu'il y a eu quand même très peu de présidents qui ont eu.
Ouais, trois, mais enfin, dont lui.
Qui ont été victimes d'une tentative d'impeachment comme Donald Trump. Outre l'impeachment, et les Ouïghours, qu'est-ce que vous retenez, chers chroniqueurs, de cette année 2019? Quel est l'événement plutôt, qui vous a marqué en 2019? Si vous deviez retenir un événement. Sur le plan national, international, peut-être même local, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué?
Moi, je crois que dans mon cas, c'est l'incendie de Notre-Dame.
L'incendie de Notre-Dame, Jeanne?
Franchement, il y en a tellement que je ne vais pas t'en citer un seul pour 2019. Quoi.
Thomas?
Moi, je dirais plutôt l'incendie au Brésil.
Ouais, alors moi, les incendies en Australie, mais du coup, c'est pas un événement, enfin, c'est sur plusieurs jours et...
les différents incendies.
Mais je trouve que l'incendie en Australie, ça m'a particulièrement remarqué parce que déjà on y allait. Et puis vraiment quand on voit une carte de l'incendie qui brûle, je trouve ça, terrifiant. NASA, quoi. Ouais.
Quand on voit les orages de feu totalement. Qui se créent et qu'on n'a pas l'impression que c'est en train de s'arrêter en fait, surtout.
Ouais.
Malheureusement, il faudrait une grosse pluie sur l'ensemble du pays pour vraiment que les incendies puissent s'arrêter. Ça, Florentine, cette année 2019, l'événement qui t'a le plus marqué?
Je pense que c'est les mouvements des gilets jaunes et les mouvements de grève incessants, on va dire. Ouais.
La grève qui continue en France et qui fait rage plus que jamais encore aujourd'hui avec cette réforme des retraites. Très bien, écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie de l'actualité. Nous faisons nos petites rétrospectives de l'actualité de 2019. On se retrouve après une petite coupure musicale. A tout de suite. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. Do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues. You got 'em too. And one of them is how bad I need you. I got issues. You got 'em too. 'Cause I got issues, but you got 'em too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Nous sommes encore ensemble pour une petite dizaine de minutes sur l'actualité sur Radio PFM 99.9. Nous faisons une petite rétrospective de l'actualité 2019 pour bien entrer dans l'année 2020. Chers chroniqueurs, nous avons abordé un peu vos sentiments quant à cette année 2019. Quelles sont un peu vos prédictions pour cette année 2020, notamment sur le plan national? Je me souviens que dans nos émissions, nous disions que l'année 2019 du président ne pourrait pas être pire que celle 2018. Qu'en sera-t-il de 2020? L'année du président sera-t-elle meilleure selon vous? Ou comment jugez-vous l'année 2019 du président?
Grande question.
Grande question.
Ouais, déjà, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas encore déjà les annonces concernant les réformes, enfin la réforme des retraites. Mmh. Et au-delà de ça, je me demande ce qu'il va essayer de mettre en place derrière, et surtout quelle sera la réaction du peuple, parce que là, on essaie de faire des changements d'un point de vue économique et d'un point de vue social aussi pour améliorer la situation du pays. clairement, les Français, ils réagissent pas du tout comme l'espérait le gouvernement. Et du coup, derrière, je me demande comment sera l'année 2020 vis-à-vis de la relation en fait, entre le peuple et le gouvernement pour ces mises en place que le pays a besoin pour l'économie surtout.
J'ai l'impression que le gouvernement, sauf s'il arrête vraiment ses réformes, il n'arrivera jamais à proposer quelque chose qui plaira au peuple ou qui ira dans la volonté.
Est-ce qu'un gouvernement pourra proposer quelque chose qui plaira au peuple?
C'est ça le problème.
Moi, c'est ce qui me fait peur clairement. Est-ce que les Français vont accepter un jour quelque chose pour changer et que ça aille mieux? Pour accepter de tester quelque chose, en fait. Et je vous avoue que ça, c'est
donc
un peu l'inconnu.
J'espère que son année 2020 sera meilleure que 2019, parce que sinon, on va vraiment avoir un problème pour 2021. Je sais pas. Enfin, c'est pas très bien parti pour, en tout cas. Donc,
avec ces nombreuses grèves quant à la réforme des retraites, Sarah Florentine, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as pensé de l'année 2019 d'Emmanuel Macron, et qu'est-ce que tu attends de son année 2020?
Alors, moi, un peu en retour à ce que disaient Héloïse et Jeanne, moi, je pense qu'après, c'est... L'année du président, je ne l'ai pas trouvée mal ni dramatique, mais je pense qu'aussi ça va être l'année du peuple, comme elle disait. Parce que quoi que le gouvernement fasse, le peuple, il n'est jamais vraiment content. Là, on peut le voir avec la réforme des retraites. Et je pense que ça dépendra des réactions du peuple.
D'accord, donc 2020 sera l'année du peuple. Mais est-ce que 2019 ne l'était pas non plus avec le grand débat national où le gouvernement a donné la parole aux Français?
Au final, ça a eu quel impact?
Au final, quel impact ça a eu, évidemment.
J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment servi, ce grand débat national.
Je pense que l'idée était bonne, mais en tout cas, on n'en voit pas les retours. Donc,
D'accord. Bon. Eudes?
Oui, clairement, je suis assez d'accord. Donc le problème, c'est qu'il y a une crise de représentation. Donc bon, il y a un écart qui est de plus en plus grand entre le gouvernement et finalement... le peuple, enfin une certaine partie, disons qu'il y en a quand même, il reste quand même un nombre qui soutient Emmanuel Macron, mais il y a une division de plus en plus importante, c'est ça qui est à la fois dramatique mais à la fois intéressant à suivre pour cette année.
Et vas-y Thomas.
C'est vrai qu'en France, la France c'est un peu un paradis où ses habitants se croient un peu en enfer, et c'est un peu.
C'est beau ridicule, ce que tu dis,
c'est tellement phrase,
d'accord.
C'est une belle phrase.
C'est ce que pensent les étrangers du coup, mais je pense qu'on pourrait un peu accepter mieux notre sort.
Relativiser.
C'est ça quoi. C'est
pas. Est-ce qu'on aimerait que ça change, mais on refuse le changement? Et à partir de là, on va continuer à râler, que ça soit sur notre situation présente ou sur ce qu'on essaie de faire pour que ça change. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que quoi qu'on fasse, ouais, comme vous dites...
Après, le problème, c'est que... Je t'ai coupé, non?
Non, vas-y, t'inquiète.
Plus on a de droits et plus on a d'avantages, plus on en veut. Enfin, c'est logique.
Ouais.
Donc forcément...
Mais c'est la mentalité française aussi.
Oui, mais je pense que dans tous les pays, si on donne des droits aux gens, ils vont vouloir d'autres droits et ils vont se dire...
Ça peut être assez humain quand même.
C'est paradoxal qu'on ait ces droits-là et pas d'autres.
Mais là, ça atteint un extrême quand même.
Non, je suis d'accord.
Parce qu'on sait très bien qu'on manque de sous, qu'on manque d'argent dans cette crise et qu'on a besoin de changements sur beaucoup de points de vue. Mais pour l'instant, le gouvernement n'arrive à rien faire. Et je ne sais pas si les décisions de Macron sont vraiment les bonnes, si ça pourrait vraiment améliorer les choses. Mais en tout cas, là, on est vraiment bloqué, quoi. Et en plus, tout le pays est bloqué parce qu'on est tous, clairement, on ne va pas en parler, mais les grèves, ça bloque tout le monde. Ils ont l'impression que la SNCF se met tout le monde à dos parce que tout le monde est en train de se dire « Mais à cause d'eux, on ne peut plus rien faire alors qu'ils ont quand même des avantages de malade. » Enfin, d'un point de vue extérieur, la SNCF, bien entendu. Mais... c'est assez compliqué, à la fois au sein des Français. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'opposition dans les villes où il y a beaucoup de grèves. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé en disant « Pourquoi tu travailles alors que on vous cherche à protéger ta retraite ?» Ou alors « Pourquoi vous faites grève ? Parce que moi j'ai besoin d'avoir des sous, donc je travaille. » Enfin, même au sein du peuple, moi ça m'inquiète aussi, quoi, cette opposition.
D'accord, mais est-ce que pour stopper les grèves, le gouvernement ne devrait pas écouter les revendications des grévistes et des syndicats, notamment la CGT, pour justement stopper ces grèves, tout simplement? Je me souviens, Héloïse, que tu nous disais en 2018, début 2019, pour notre rétrospective de 2018, que le président n'écoutait pas assez les Français.
C'est vrai qu'il a bossé. Hein.
Est-ce que déjà en 2019, le président a plus écouté les Français? Est-ce qu'il devrait peut-être plus les écouter en 2020?
Le problème, c'est que, je parle à la place d'Héloïse, mais s'il écoute les Français, maintenant, c'est aller tellement loin, ces grèves, que les seules revendications, c'est d'arrêter la réforme sur les retraites.
C'est ça.
Et s'il arrête cette réforme, est-ce qu'il ne va pas perdre sa crédibilité? Je pense qu'il est un peu bloqué là.
La principale revendication est aussi au niveau de l'âge pivot. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas enlever l'âge pivot pour...
Ouais, mais je pense qu'ils sont tellement bloqués dessus et que ça fait tellement longtemps qu'ils disent on changera pas ou ils font d'autres changements, mais pas ça. Je pense que s'ils changent ça, ils vont perdre leur crédibilité et finalement, après,
c'est
compliqué
l'équilibre.
De faire d'autres réformes, quoi.
D'accord.
Ce qui m'inquiète aussi, c'est comme tu dis, c'est... Le gouvernement doit trouver un équilibre entre forcément écouter les grévistes pour que les grèves s'arrêtent, écouter les syndicats, mais aussi réussir à poser les changements qui pensent être nécessaires pour améliorer les choses d'un point de vue économique. Et du coup, c'est tout un équilibre qu'ils essayent de trouver, mais quelle en sera la réaction du peuple quand on aura annoncé ces changements? Et du coup, derrière, quels en seront les impacts économiques? Et c'est quand même un grand inconnu, quoi, cette réforme. Donc, enfin, comme toujours, mais on verra bien.
D'accord. Sarah Florentine, qu'est-ce que tu penses de toutes ces grèves? Est-ce que le président doit plus écouter les Français? Ou est-ce qu'il les a assez écoutés en 2019?
Moi, je pense qu'il les a écoutés et je trouve que c'est quand même incroyable parce qu'on est en France avec un pays où on a beaucoup de droits et encore une fois, on se plaint, on bloque le pays, entre guillemets. Et je pense que dans tous les cas, c'est une réforme qui doit être faite, qui est importante. Et donc, je pense qu'il va essayer d'écouter le peuple, mais qu'il ne pourra pas faire exactement...
ce qu'il aurait aimé faire.
Ouais, voilà.
D'accord, Eud?
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Donc, le problème, c'est que maintenant, c'est un peu un point de non-retour, comme on disait, parce que bon... d'un côté, on veut passer une retraite qui est préparée et qui a été prévue d'ailleurs par la campagne présidentielle. Et d'un autre côté, on veut que la grève s'arrête complètement. Donc finalement, il n'y a pas de compromis, donc il n'y a pas de solution possible pour les manifestants, à mon avis.
Pour l'instant, ouais, ça pourrait être vachement bloqué.
Il n'y a pas de solution. Thomas ?
Voilà, là, tu prends un peu au dépourvu. qu'est-ce que je pourrais bien dire ?
Est-ce que le président a assez écouté les Français, à ton avis ? Ou est-ce qu'il doit plus les écouter ?
Ah oui, non. Je pense qu'il a un peu fait semblant de les écouter. C'est un peu de la com, le grand débat et tout. C'est un peu, ouais. Il donne un peu aux Français ce qu'ils veulent voir un peu. Mais bon, au final, rien ne bouge beaucoup.
Après, on pourra en débattre dans quelques semaines, finalement. C'est, mais c'est vrai qu'au au vu d'aujourd'hui, c'est un peu instable.
D'accord. Pour revenir sur un autre point... Eudes, tu nous disais qu'il y avait une certaine division entre les Français, entre le gouvernement et les Français aussi. Est-ce que cette division pourra amener le peuple à voter pour le Rassemblement National au municipal? Et si on se projette encore plus loin, au présidentiel en 2022, selon vous? Je rappelle que le Rassemblement National a gagné les élections européennes en mai.
Personnellement, j'en suis quasiment convaincu, je dirais, parce que bon, c'est assez facile de dire ça, mais ce qui paraît assez évident, c'est qu'un scénario se dessine, c'est celui de la représentation d'Emmanuel Macron. Donc il y aura d'un côté ceux qui l'ont élu et qui sont satisfaits, donc ils voudront le réélire, et qui diront de faire barrage au Front National, et de l'autre côté, le Front National qui se basera sur les mécontents et qui voudra regagner une part supplémentaire d'électeurs. Donc le problème, c'est que face à ça, les autres candidats, ils vont être un peu effacés, alors que finalement, il n'y a pas finalement seulement deux candidats, sinon...
Et qu'est-ce qui va gagner ces élections municipales? Et c'est, sans aller peut-être en 2022, mais c'est les présidentielles aussi. Est-ce que le Rassemblement National a augmenté ses chances de gagner?
Alors là, pour les municipales, en fait, je dirais que ça... C'est assez, ça dépend en fait des régions, parce que bon, il y a forcément des régions qui sont plus historiques, des villes qui sont plus historiques, pardon. Après, ce qui est très intéressant aussi au niveau des municipales, c'est les grosses municipales, comme par exemple à Paris. Donc c'est un enjeu qui est finalement pas tant local, mais c'est aussi national, les élections de Paris ou même de Lille finalement.
Je pense que si pour les municipales, le Rassemblement National a plutôt des chances de gagner ou d'avoir des bons scores, en tout cas dans des villes, et de gagner des villes, je pense qu'au national, même s'il passe au second tour, il y a peu de chances qu'il réussisse à avoir la présidentielle, enfin j'espère pas en tout cas. Parce que je pense que vraiment, toutes les personnes vont faire comme aux anciennes élections, ils vont se mettre contre, et ils vont pas voter pour le deuxième candidat, mais contre le Rassemblement National. Okay. Du coup, je pense que non, ils passeront pas.
D'accord, Héloïse ?
Je n'ai aucun avis là-dessus, je vous avoue, aucune idée. Je nage.
D'accord, Sarah Florentine ?
Pareil.
Pareil qu'Héloïse. Rapidement,
on
va
plus larguer sur ce point politique que je crois aussi.
Rapidement, avant de conclure un peu cette émission sur le plan international... 2019, c'est terminé par, sans aller jusqu'à dire l'assaut, mais l'irruption d'une milice irakienne pro-Iran dans l'ambassade américaine. C'est l'année 2019, c'est fini sur ça. On a eu une escalade de tensions entre l'Iran et les États-Unis. Trump, finalement, a annoncé de nouvelles sanctions pour l'Iran. Comment est-ce que cela va se finir assez rapidement, les deux?
Pour moi, ça va pas aller jusqu'à une guerre, parce qu'on voit que finalement c'est assez individuel du côté du président. Donc il y a en ce moment même des procédures qui sont faites pour essayer de réduire l'impact présidentiel sur la crise. Mais bon, c'est vrai que c'est une tension qui est assez historique et qui est finalement assez difficile à défaire. Donc il y aura forcément toujours une tension,
puisque les intérêts diffèrent
en fait. Ouais.
Je suis un peu d'accord avec eux. Je pense que les tensions vont rester des tensions. Et tous les pays européens, et même à part Donald Trump, les personnes influentes aux États-Unis ont appelé au calme et à la tempérance. Et je pense qu'ils sont assez intelligents pour ne pas entrer dans une guerre.
D'accord. Donc, et est-ce que l'Iran va accepter, à votre avis, de renégocier l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien ?
Ouais, je pense pas.
Ça reste
Trump a appelé. Trump a appelé évidemment l'Iran à renégocier cet accord sous peine de nouvelles sanctions évidemment qu'il a réinstauré.
Après c'est un peu compliqué parce que bon Trump était un peu hypocrite sur ce coup-là parce qu'il se retire de l'accord, ce qui fait finalement que l'Iran se retire et ensuite il veut renégocier un nouvel accord. Donc bon. C'est...
Alors l'Iran ne s'était pas retiré de l'accord dès que Trump l'annonçait. Au fur et à mesure ils annonçaient des dérogations à cet accord puis se sont retirés il y a quelques jours pour s'enrichir un peu plus en uranium.
Alors moi, je suis carrément de votre avis. Je pense que, comme vous dites, il n'y aura pas de conflit international. Mais je me dis simplement que Trump, il a réussi à compliquer les choses jusqu'au bout, que ce soit d'un point de vue environnemental ou politique, et même là dans les relations géopolitiques. Et je ne sais pas trop comment tout cela va se finir, mais ça fait que amplifier l'ensemble des conflits qui peuvent se passer au Moyen-Orient, et je pense qu'on n'avait clairement pas besoin de ça. Et voilà, je vais pas faire de pronostic sur la fin de ce conflit, mais je trouve ça triste en fait, simplement que Trump ait eu autant d'impact. On le savait de toute façon, mais que Trump ait eu autant d'impact
sur le président monde. Des États-Unis quand même.
Et en plus après, il joue sur ça pour sa réélection. C'est aussi une part de son électorat qui veut ça.
Je pense que c'est un peu un coup politique aussi. Hein. Ça, oui. Ça va
aller. Justement, c'est-à-dire que les États-Unis sont derrière ça et que
d'affronter l'Iran.
J'ai l'impression que les États-Unis sont un peu vraiment dans cette compétition pour rester le premier pays au monde et que. Mais ça a tellement d'impact que moi ça me fait flipper, hein, clairement.
Mais je pense, ou en tout cas j'espère, que les Iraniens sont assez intelligents pour se dire qu'ils ne gagneront jamais cette guerre contre la première puissance militaire du monde et donc qu'ils ne rentreront pas dans ce jeu-là, quoi.
Ils sont déjà bien rentrés dans ce problème de conflit.
Ils n'iront pas plus loin que ce qu'ils ont fait
j'espère aussi.
Maintenant.
D'accord. Thomas, pour le mot de la fin sur ce sujet des tensions entre l'Iran et les États-Unis ?
Alors moi je pense pas qu'il y aura une guerre parce que les États-Unis sont un peu sous le joug de la Chine parce qu'ils sont déjà très endettés et ils ont pas trop les moyens de faire une guerre, je pense. S'ils veulent, ils peuvent toujours s'endetter encore plus, mais étant donné que la Chine est un peu un allié de l'Iran, ils peuvent pas vraiment se permettre une guerre. Déjà qu'en plus Trump doit répondre des bombardements qu'il a effectués en Iran. Devant le Congrès, je crois, c'est ça ?
Justement. Trump qui répond devant le Congrès. Ça, oui.
C'est ça. Il y a aussi une question du droit vis-à-vis justement du Congrès. Le président doit passer par le Congrès pour déclarer une guerre.
Ouais.
Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de guerre qui a été déclarée. Mais évidemment, il n'est pas passé par le Congrès pour notifier pour dire au Congrès qu'il allait tuer le général Qassem Soleimani, qui est un puissant militaire.
J'ai l'impression que Trump n'a pas besoin de déclarer une guerre
en Iran, qui est considéré un peu comme le numéro 2 derrière l'ayatollah, Ali Khamenei. Voilà, Thomas, c'est
tout ce qu'il avait à dire.
Écoutez, donc pas de troisième guerre mondiale, nous l'espérons pour cette année 2020.
Ça peut être sympa.
Nous vous souhaitons donc une nouvelle fois une bonne année, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour reparler de ces tensions Iran-États-Unis. En tout cas, comme je l'ai dit, pardon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouveaux débats. À bientôt.